France Inter, franceinter.com.
Osmose. Osmose, Fabienne Chauvière.
Bonsoir à tous et merci d'écouter Osmose. Osmose qui s'intéresse ce soir au langage, à la naissance du langage chez les petits. Comment les bébés apprennent-ils à parler? Je reçois Ghislaine Dehaene, elle est pédiatre. Ensuite, nous partirons dans des archives d'un genre particulier à Versailles. Il est un lieu unique au monde, l'osmothèque, où l'on conserve les parfums d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier. Qu'est-ce qui fait un parfum? Jean Kerléo nous le dira. Il y a des milliers d'années, un homme a commencé à articuler de drôles de choses avec sa bouche pour communiquer. On ne sait pas qui était cet homme, ni à quelle époque il a vécu. Le fait de parler ne laisse ni traces, ni fossiles. Aujourd'hui, parler semble être tout à fait naturel, mais les énigmes scientifiques autour de la parole sont multiples. Comment, par exemple, la parole vient-elle chez les petits d'hommes? À partir de quel âge un bébé fait-il des différences entre les mots ou entre le « gars » et le « pas » Cela ne fait pas si longtemps que des chercheurs se penchent sur le sujet. Ghislaine Dehaene, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche CNRS dans l'unité INSERM de neuroimagerie cognitive. Alors, les bébés ont une perception précoce du langage ou pas?
Oui, les bébés très précocement répondent à la parole, sont attirés par la parole. En fait, même pendant les dernières semaines de grossesse, l'oreille fonctionne et on pense que déjà leur cerveau traite et est intéressé par ce stimulus très particulier qu'est la parole humaine.
Avant même la naissance.
Avant même la naissance.
Ghislaine Dehaene, nous sommes ensemble pendant une heure. Vous avez participé au livre « La plus belle histoire du langage ». Le livre est paru au Seuil. Et on commence avec les têtes raides. J'ai menti.
J'ai menti, je t'aime. J'ai trahi, je blâme. J'ai maudit, je traîne. J'ai moisi ma haine, j'ai guéri ma peine, j'ai garé ma flemme, égaré je t'aime, j'ai frémi des gaines, tout flotte, dans les bras du temps, chatouille et picote, ces jolis moments, en bas c'est là-bas, là-haut c'est plus bas, le soir est tombé, et c'est déjà ça. J'ai menti, je t'aime, j'ai dit oui, je freine, j'ai dit tu m'emmènes, d'où tu me ramènes, ta vie c'est pas la mienne, ma vie c'est pas la tienne, t'as pas dit je t'aime, mais t'as failli quand même, et quand s'effiloche les pages du roman, nos cloches viricochent, on est percé dedans, comme on n'y voit pas, on se le dit pas, le jour s'est levé, et c'est déjà ça. Dans le vide qui nous mène, aux folies que l'on promène, des fleurs que l'on sème, dans les rues de Bohème, et dans une envie soudaine, comme c'est pas dit que ça tienne, j'ai pas dit je t'aime, mais j'ai failli quand même, je vole, tu voles, dans le firmament, brûle une parole, on s'y voit dedans, puis nous revoilà, loin des au-delà, on va s'effacer et c'est déjà ça. Si on y va, c'est que on n'y va pas. Et si on n'y va pas, on y va ou on n'y va pas? Eh ben on y va. Si on y va, donc c'est qu'on n'y va pas. Alors on y va. On y va, mais on n'y va pas. Alors on y va.
J'ai menti, mais encore faut-il savoir parler pour mentir. Nous parlons du langage du nourrisson, de l'apprentissage du langage chez les bébés. Ghislaine Dehaene est pédiatre, directrice de recherche CNRS dans l'unité INSERM de neuroimagerie cognitive et co-auteur de La plus belle histoire du langage. Le livre paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil. Alors Ghislaine Dehaene, dès la naissance, chaque nourrisson, c'est ce que vous dites en tout cas dans l'introduction de ce livre, chaque nourrisson réinvente le langage.
Oui, parce qu'en fait, le nourrisson doit apprendre ce que c'est que la parole, doit réagir à cette parole et doit aussi l'intégrer pour pouvoir lui aussi produire ces sons qui transmettent l'information dans notre espèce, qui est si importante dans notre espèce pour communiquer entre nous.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand commence cet apprentissage, hein? Parce que le langage, c'est quelque chose de très, très compliqué.
Oui, le langage est très compliqué. Forcément, au départ, le bébé ne comprend pas encore les discours de Kant. Chaque maman le sait très bien.
Et heureusement non. Pour lui, le pauvre.
Heureusement pour lui. Donc, en fait, ce qui se passe au départ, c'est que le bébé est baigné par cette parole, puisque la maman, évidemment, ne peut pas s'empêcher de parler à son bébé, et va reconnaître d'abord la mélodie de la langue, et chaque langue utilise une mélodie particulière, va reconnaître quels sons sont utilisés par sa langue maternelle. Et en fait, ce dont on s'est aperçu pendant ces dernières années, avec ses recherches sur le langage, c'est que, alors que le bébé ne produit pas encore, hein, les bébés au départ, ils vocalisent, arre, arre, un point c'est tout, en fait, ils apprennent déjà beaucoup de choses sur leur langue maternelle. Ils fixent les sons de leur langue maternelle. Si bien que leurs premiers mots ne vont pas être n'importe quoi, ils vont dépendre de la langue maternelle. Et à la fin de la première année de vie, ils savent déjà énormément de choses sur leur langue maternelle.
Alors, vous faites des expériences avec les bébés, des expériences très, très gentilles. Et vous avez réalisé, par exemple, qu'un bébé hollandais ne va pas discriminer entre l'anglais et le hollandais. En revanche, entre le français et l'anglais, il y a une grosse différence.
Voilà, c'est-à-dire que les bébés, au départ, vont caractériser les langues suivant leurs caractéristiques mélodiques. Et donc, le français est une langue très différente de l'anglais, qui est très rythmée. Vous savez, l'anglais avec ses top, top, top. Tandis que le français est très précis, au contraire. Enfin, très précis n'est pas le terme, très régulier, voulais-je dire. Et donc, c'est pam, 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 pam. On appelle ça une langue syllabique. Et donc, ces caractéristiques, ces différences de rythme sont très tôt perçues par le bébé.
Alors, quelles sont les langues qui sont proches du français?
Comme ça, vous me posez une colle, je suis en train de chercher. Il y en a certainement beaucoup, mais je ne trouve pas là actuellement.
Ghislaine Dehaene, quelles sont les expériences que vous faites avec les bébés? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre?
Ce qu'on essaye de comprendre, c'est de savoir pourquoi les petits humains apprennent à parler. Est-ce que c'est simplement parce que les humains ont un cerveau plus gros que nos cousins les chimpanzés, donc on a des capacités de calcul supplémentaires, comme un gros ordinateur a plus de capacités qu'un ordinateur, que nos ordinateurs d'il y a 10 ans ou 20 ans, ou est-ce qu'on a une organisation particulière dans le cerveau humain qui va favoriser l'apprentissage de ce mode de communication? Et donc c'est ça qu'on cherche, on essaye de comprendre l'organisation du cerveau au départ de l'être humain pour cette organisation qui va lui permettre d'apprendre à parler et d'apprendre aussi tout ce qu'on peut apprendre par la suite.
Donc si les grands singes ne parlent pas, c'est à cause de leur cerveau.
Ou grâce. Oui, voilà, je pense que l'organisation du cerveau de l'être humain est essentielle pour apprendre à parler, pour permettre au bébé de sélectionner parmi tous les bruits qui l'entourent, parce qu'un bébé, c'est pas juste la parole, il entend plein d'autres choses, surtout si il y a la radio, les disques de maman autour, les aboiements du chien, les voitures qui passent, et etc. Oui. Et parmi tout ça, la parole va particulièrement l'attirer et il va pouvoir apprendre cette chose très complexe. Il faut se dire que du point de vue des ordinateurs, on ne sait pas faire apprendre une langue à un ordinateur, on ne sait même pas lui faire différencier le français du russe, par exemple, ce que font très bien nos petits bébés français à la naissance.
Et donc, quelles sont les expériences que vous menez avec les bébés ?
Alors, on a plusieurs types d'expériences. On a des expériences que l'on dit comportementales, où on essaye de susciter un comportement chez le bébé pour qu'il puisse nous montrer ce qu'il est capable de faire. Alors, vous imaginez que chez un bébé de 4 jours, c'est pas facile.
Ah, vous les prenez dès 4 jours ?
Ah, dès 4 jours. Nous nous précipitons sur le pauvre petit chérubin qui vient juste d'arriver au monde pour qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Oui, donc ça se passe dans la maternité, par exemple à Port-Royal. On va voir les mamans, on leur dit, par exemple, nous voudrions savoir si les bébés de 4 jours sont capables de différencier le français du russe. C'est ce que j'ai fait en 86.
Et comment faites-vous ?
Alors, avec de l'assution. Alors, vous imaginez que c'est bien très indirect comme moyen de réponse pour le bébé. Donc, on leur donne une tétine. Dans cette tétine, il y a un capteur de pression. À chaque fois qu'il tète, nous, on est au courant, puisque la pression va changer dans la tétine. Et donc, on mesure d'abord leur succion à vide, quand il ne se passe rien. Puis, on leur présente, par exemple, des phrases en français. Donc, dans un premier temps, le bébé est un peu étonné. Il tète, il entend du français. Donc, il tête de plus en plus pour entendre ces phrases.
Et ça excite sa succion.
Oui. Puis, au bout d'un moment, il a compris. C'est toujours des phrases dites par la même dame. Enfin, ce n'est pas toujours les mêmes phrases, mais il relève qu'il y a quelque chose de commun.
Il s'habitue.
Et il s'habitue, exactement. La succion diminue. À ce moment-là, pour un certain nombre de bébés, ils vont changer de langue. Par exemple, entendre donc toujours la même femme, la voix ne change pas, mais la langue change, elle parle maintenant en russe. Et puis, l'autre moitié des bébés continue à entendre les phrases françaises pour avoir le rythme de succion de base. Qu'est-ce qui se passe avec ces bébés quand ils entendent pendant 10 minutes de la parole.
Et vous mesurez ?
Et on mesure donc les taux de succion par minute. Et on s'aperçoit que quand on change de langue, eh bien, les taux de succion réaugmentent, comme si le bébé était à nouveau excité par ce changement,
intéressé, interloqué,
voilà, et voulait en plus comprendre ce qui se passe, donc retête, pour avoir plus de phrases et comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant, pourquoi j'ai plus le français. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que les bébés faisaient la différence, là en l'occurrence, entre le français et le russe.
À 4 jours,
voilà.
Et ensuite, savez-vous à quel âge un bébé est en mesure de comprendre des mots ?
Dans la première année de vie, peu d'évidence, en tout cas dans les premiers mois, sauf vers 4 mois, on a l'impression que le bébé répond très bien à son nom. Ouais. Donc il a déjà repéré son nom comme étant quelque chose qui revenait fréquemment et il sait que c'est lui. Ensuite, il faut attendre beaucoup plus tard, vers la fin de la première année de vie, pour savoir papa, maman, évidemment les mots très communs. Et puis ensuite, dans la seconde année de vie, on a cette explosion lexicale où tout d'un coup, le bébé va découvrir plein de mots et va les apprendre.
Et il les apprend, il ne les prononce pas forcément ?
Il ne les prononce pas forcément. Il y a un décalage très net entre perception et production, puisque vous avez des bébés qui comprennent en fait relativement vite, alors que la production qui demande évidemment un contrôle moteur, un contrôle de tous les articulateurs, et on a au moins 70 muscles pour gouverner l'articulation.
Et oui, j'ai vu ça.
Et donc ça fait beaucoup à contrôler quand on pense que la marche qui en demande moins est si difficile à obtenir chez le bébé.
Donc, en ce moment, on a 70 muscles qui fonctionnent.
Qui fonctionnent pour moduler l'arrivée d'air, pour arriver à donner donc tous ces sons qui nous servent à communiquer.
Est-ce que vous étudiez le babil des bébés ?
Alors moi, je ne l'étudie pas particulièrement, mais il y a eu des études effectivement sur le babil des bébés et où on s'est aperçu qu'en fait, vers 8-9 mois, ce babil n'est pas universel. C'est-à-dire, on a cru très longtemps que tous les bébés faisaient arebababa, papa, de la même façon. Mais pas du tout. C'est Bénédicte de Boisson-Bardise avec Pierre Allais qui a montré qu'en fait, vers 8-9 mois, les petits bébés cantonais avaient des intonations très particulières du cantonais, donc du chinois. Les petits bébés arabes avaient des productions de choses choses comme ça que ne font pas du tout les bébés français parce qu'on n'a pas ce type de son en français. Mais par contre, on a des re vers l'avant, donc beaucoup plus, des ces bruits vers l'avant. Et donc, si on présente à des adultes naïfs des babillages de bébés cantonais, arabes ou français, ils savent très bien dire « Ah oui, celui-ci est un petit arabe, celui-ci est un petit cantonais, etc. »
Ghislaine Dehaene, vous travaillez beaucoup avec l'imagerie cérébrale. Vous allez nous expliquer ce que l'imagerie vous a appris, notamment dans ce domaine du langage du nourrisson. Vous nous direz tout ça dans un instant après Bob Dylan, « The times, they are changing ».
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Et je suis avec Ghislaine Dehaene, qui est pédiatre, directrice de recherche CNRS dans l'unité INSERM de neuroimagerie cognitive, et nous parlons du langage du nourrisson. Alors, unité de neuroimagerie cognitive, vous travaillez avec l'imagerie cérébrale. Expliquez-nous ce qu'est l'imagerie cérébrale.
Alors, l'imagerie cérébrale est un grand progrès pour voir fonctionner le cerveau et en direct chez des gens comme vous et moi, chez des gens sans problème. Et donc, on a deux méthodes.
Oh, mais moi, j'en ai beaucoup.
Justement, on peut les voir. On a deux méthodes essentiellement. La première qui est l'électroencéphalographie. Donc, on met des capteurs sur la tête. Donc, ça enregistre uniquement, ça n'envoie rien. C'est totalement anodin.
Et indolore.
Et indolore, totalement indolore. Et en fait, on a un système très léger, si bien qu'une fois qu'il est placé sur la tête des bébés, ils sont...
Il
ils oublient totalement. Et ça nous permet d'enregistrer l'activité électrique cérébrale. Donc cette méthode est très précise sur le plan temporel. On voit des changements de milliseconde en milliseconde. Par contre, comme on est sur la tête et non pas dans le cerveau,
on ne voit pas où ça se passe.
On voit pas où ça se passe.
Mais qu'est-ce que ça vous donne comme information ?
Ça nous donne les étapes de traitement d'un son, par exemple. Si je fais écouter bas à un bébé, je vais voir une succession de composants électriques, négatifs, positifs, sur différentes électrodes qui sont posées sur la tête. Et ça va me dire quelles sont les régions cérébrales et qu'est-ce qui se passe. Par exemple, si je fais bas, 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 da, je vais voir qu'à 400 millisecondes, j'ai une déflexion dans une partie de la tête et que donc à 400 millisecondes, le bébé fait la différence entre bas et da.
Voilà, vous en tirez cette conclusion. Alors, quand on parle d'imagerie cérébrale, on parle de cette première méthode, mais il y en a d'autres.
Oui, on parle surtout en fait de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui a été le grand progrès. Donc, c'est une grosse machine avec un aimant et ça nous permet de vérifier des propriétés magnétiques des tissus dans le champ magnétique de l'IRM et de voir donc des activations cérébrales. Alors là, contrairement à l'EEG, à l'électroencéphalographie, l'IRM nous permet de voir où ça se passe, mais pas tellement quand ça se passe.
Oui.
Donc les deux méthodes sont très complémentaires.
Et vous utilisez l'IRM ?
Et on utilise l'IRM chez les bébés.
C'est sans danger pour un bébé, ces gros aimants ?
C'est sans danger parce que maintenant on a un recul, puisque l'IRM est utilisé depuis une quinzaine d'années en pédiatrie pour des raisons médicales et on voit qu'il ne se passe rien. Il y a des études aussi biologiques où on a exposé des pauvres souris pendant des jours et des jours à des champs magnétiques intenses et il n'y a pas non plus de problème. La seule inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est bruyante, donc on protège très, très sérieusement les oreilles des bébés. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas bouger du tout. Et donc là, on a un petit problème avec les bébés, c'est qu'ils ont tendance à bouger.
Qu'est-ce que vous avez appris avec l'IRM ?
Alors avec l'IRM, on s'est posé une question de savoir si la spécialisation gauche qu'on voit chez l'adulte pour le langage, vous savez que si 95% des adultes, lorsqu'ils écoutent de la parole, mettent en jeu surtout leur hémisphère gauche, est-ce qu'elle était présente dès le départ ou pas ? Ou est-ce qu'elle était une conséquence de l'apprentissage de la parole ?
Et donc, on a testé... que c'est inné ou acquis ?
Voilà, toujours le vieux débat entre inné et acquis. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le cerveau du bébé est déjà asymétrique avec un avantage pour l'hémisphère gauche pour traiter la parole.
À la naissance,
On ne les a pas pris à la naissance. Il y a déjà eu 2 mois d'exposition, plus les quelques semaines in utero, si je puis dire.
Mais Ghislaine Dehaene, quelle est la particularité du cerveau des bébés ? Est-ce que le cerveau est fini lorsque le bébé naît ? Est-ce qu'il est en pleine évolution ?
Ah non, non, c'est un cerveau très différent du cerveau adulte. On pense toujours que c'est simplement un petit adulte en réduction. Ce n'est pas vrai du tout. Son cerveau est extrêmement différent, ce qui nous pose d'ailleurs des problèmes en imagerie, puisqu'on a un cerveau immature, donc qui a des propriétés physiologiques différentes du cerveau adulte. Donc les images sont différentes. Mais en plus, on est sur une période où le cerveau change très très vite. Il faut se dire que le tour de tête, qui est ce que les parents voient dans le carnet de santé, on voit très bien la courbe de périmètre crânien qui augmente très très vite pendant les 2 premières années de vie. Il prend 14 cm en 2 ans de vie, donc c'est énorme. Ça témoigne de tous les changements qui sont en dessous et qu'on ne voit pas évidemment, mais qu'on voit nous maintenant avec nos machines. Et ces régions en plus ne maturent pas, si on me pardonne ce néologisme, de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui vont avoir une maturation très rapide, comme les régions occipitales de la vision, les régions auditives de l'audition, mais par exemple les régions frontales vont avoir une maturation très très longue jusqu'à la puberté. Et donc on a une hétérogénéité très importante dans le cerveau de l'enfant.
Est-ce que le langage fait évoluer le cerveau ? Est-ce que le cerveau des enfants qui ont deux cultures, deux langues dans leur famille est différent ?
On n'a pas d'imagerie encore de cela, mais on a nos collègues de Barcelone qui viennent de sortir un papier dans Nature ou Science montrant que les adultes bilingues ou les enfants bilingues également ont plus de facultés à passer d'une tâche à l'autre. Donc en fait, ça n'a aucune influence. Enfin, ce qu'ils nous regardaient n'était pas du tout une tâche linguistique, mais une tâche simplement de passage d'une tâche à l'autre. Et ils ont montré que les bilingues étaient avantagés et passaient beaucoup plus vite d'une tâche à l'autre et pouvaient se concentrer sur plusieurs tâches à la fois, beaucoup plus facilement que des monolingues.
Donc ça joue un rôle
forcément. Évidemment, comme tout apprentissage.
Et est-ce qu'il y a des gènes du langage ?
Alors, certainement, puisqu'il a fallu programmer ce cerveau humain, et on voit qu'il y a des différences notables entre le cerveau humain et le cerveau des chimpanzés, que ce cerveau humain parle. Et donc, il y a sans doute des gènes qui influencent ce développement cérébral. Mais il n'y a pas un gène du langage comme on l'a pensé, comme certains l'ont pensé à un moment. Il y a énormément de gènes qui ont été pas forcément destinés au langage, mais qui ont favorisé certaines organisations cérébrales qui favorisent le langage. Donc c'est pas des choses très directes, c'est sans doute une cascade d'événements qui aboutissent au langage dans notre espèce.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'un bébé à 6 mois reconnaissait son prénom. À 12 mois, il connaît combien de mots ? On est en mesure de le dire, ça ?
Ça dépend des enfants. Il y a aussi une grande variabilité entre enfants. Il y a des enfants qui sont déjà prêts à parler. Il y en a d'autres qui disent encore rien. On n'a pas l'impression qu'ils comprennent grand-chose. Ils ont une cinquantaine de mots à la fin de la première année de vie.
Et à partir de 18 mois, ça va très très vite ?
Ça va très très vite.
Deux mots par jour ?
Plus même, au moment de l'explosion lexicale. Vous dites une fois un mot et vous êtes très surpris de l'entendre le lendemain dans la bouche de votre enfant. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de cette période.
Et vous, Ghislaine Dehaene, vous travaillez surtout avec les petits bébés.
Les tout petits, oui, le départ, d'où on part pour apprendre, pour être un être humain.
Est-ce que je peux vous poser cette question ? Ça sert à quoi, ces travaux ?
Pardon, ça sert à quoi, hein ? Oui, hein. C'est la question qu'on pose toujours aux chercheurs. On investit beaucoup d'argent dans leurs recherches. À quoi servent-elles ? Je pense qu'il y a un problème même de comprendre le cerveau humain. D'où on vient ? Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on est si différent du chimpanzé ? Pourquoi on a conquis la Terre quelque part alors que les chimpanzés sont toujours dans leur forêt ? Et je pense qu'on peut pas...
Avec la parole, sûrement.
Avec la parole, certainement. Parce que c'est sûr que ça favorise les grands groupes sociaux, ça favorise la transmission de la culture. Donc je pense que pour comprendre même le fonctionnement du cerveau de l'adulte, il faut comprendre le cerveau du bébé. Donc je pense qu'il est très important de se consacrer au bébé. Donc ça, c'est une première raison un petit peu philosophique. La deuxième raison, c'est qu'il y a des troubles de l'apprentissage de la parole, il y a des troubles de l'apprentissage du langage écrit, de la dyslexie par exemple, et qu'il faut pour aider ces enfants, il faut comprendre comment ça marche.
Et bien sûr, et vous travaillez également sur ces sujets-là ?
Un petit peu, oui. On essaye. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'on sait tellement peu de choses sur l'acquisition normale qu'il est difficile de passer à l'enfant pathologique, mais c'est un des objectifs de notre équipe.
Voici ce que Karl Vasseur a trouvé pour vous dans la discothèque de Radio France, David Links, qui chante Nougaro, les mots.
Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus. Les motus, les mots pour rire, les mots d'amour, les maudits pour te maudire. Les mots bruissants comme des rameaux. Les mots ciselés comme des émaux. La faim des mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé. Les mots muets, les mots buets comme un baiser sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissant, les mots. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin,
De façon tout à fait parallèle d'ailleurs à l'apprentissage d'une langue orale. C'est-à-dire qu'il y a un babillage manuel,
ah oui,
par exemple.
Et dans le cerveau, on voit les mêmes choses qui se produisent.
On voit les mêmes choses, effectivement. C'est d'ailleurs une des questions qui a longtemps été étonnante pour les chercheurs, puisque le langage des signes est basé sur l'espace, alors que le langage oral est basé sur le temps. C'est-à-dire que pour parler la langue des signes, vous êtes dans l'espace corporel,
oui,
et donc vous situez les signes dans différents éléments de cet espace. Et donc, l'hémisphère qui traite l'espace, c'est d'habitude l'hémisphère droit. Donc, les gens s'attendaient à ce que, après chez l'adulte, après une lésion droite, les sourds qui perdent la langue des signes. Bien, pas du tout, c'est aussi après une lésion gauche. C'est-à-dire que le langage, que ce soit le langage oral ou le langage des signes, est traité par l'hémisphère gauche, indépendamment de, que ce soit un langage visuel comme la langue des signes ou un langage oral, et que ce soit un langage utilisant l'espace ou utilisant le temps.
Alors le langage, c'est vraiment le propre de l'homme. Racontez-nous cette histoire très émouvante des petits-enfants sourds au Nicaragua.
Alors oui, parce que ça c'est assez intéressant. On a pu assister en direct, les linguistes ont assisté en direct à la création d'une langue. Qu'est-ce qui s'est passé au Nicaragua après la révolution sandiniste? Le gouvernement a créé une école pour sourds, et on a regroupé ces enfants qui étaient dispersés dans cette école. Et on a pu assister à la création d'une langue des signes nicaraguayenne. Et donc au départ, les enfants ont voulu communiquer entre eux, ont créé des signes, et puis on les a vus se complexifier.
Eux-mêmes. Apprendre la langue des signes.
Non, sans apprendre, puisque je pense qu'ils étaient oralisés. Et donc, mais c'est dans les cours de récréation, on a vu donc cette langue se créer. Et en fait, les plus jeunes en fait, étaient les plus performants.
Et quelles sont les périodes critiques dans l'apprentissage du langage ?
C'est difficile à dire parce qu'il est difficile d'avoir des enfants...
Beaucoup de questions sur ce sujet,
oui,
encore,
oui,
hein, qui
sûr,
sont en suspens.
Des enfants sans langage. Alors là, les seuls un petit peu exemples qu'on a, c'est effectivement des enfants sourds qui sont dans un milieu entendant, donc qui ne peuvent pas communiquer et qui rentrent dans une école pour sourds et apprennent le langage des signes à un âge tardif, vers 6 ans, 8 ans, enfin au moment où ils rentrent à l'école. Et on s'aperçoit que ces enfants-là ont plus de difficultés pour apprendre la langue et restent toujours un petit peu déficitaires par rapport à ceux qui ont cette langue et a appris cette langue depuis le départ. Alors sinon, il y a le phénomène des enfants bilingues, c'est-à-dire vous apprenez deux langues,
oui,
à la fois, et on s'aperçoit effectivement que la deuxième langue est d'autant plus maîtrisée que vous l'apprenez précocement.
Donc moralité, pour développer la faculté à apprendre des langues étrangères, il faut commencer très tôt.
Il faut commencer très tôt, oui, effectivement. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une période critique très nette, parce qu'il y a une expérience très intéressante de Christophe Pallier dans notre laboratoire qui a testé des adultes adoptés venant de Corée. Donc ces enfants, enfin ces adultes, ont parlé le coréen jusqu'à parfois un âge assez tardif, 3 à 6 ans. Certains,
ah oui,
étaient en Corée jusqu'à l'âge de 6 ans, puis sont arrivés en France, n'ont plus eu aucun contact avec le coréen. Il ne leur reste plus rien du coréen. Et ils traitent le français comme les Français.
Même s'ils ont parlé le coréen.
Même s'ils ont parlé le coréen. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, ça a été intéressant. J'ai vu une maman une fois pour une expérience qu'on faisait chez les bébés. Je lui racontais un peu pourquoi on faisait ça. Et je lui parlais de l'expérience de Christophe. Il me dit, ah, je suis tout à fait dans ce cas-là. Je suis coréenne et j'ai été adoptée en France. Je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Il m'a fallu 6 mois. Mes parents m'ont dit, mes parents adoptifs, que pendant 6 mois, je n'ai pas parlé. Et puis, je suis passée au français. Et depuis, je n'ai plus aucun mot de coréen.
Comment est-ce qu'on explique cela ?
Alors, contrairement aux bilingues, généralement dans des situations de bilinguisme, on garde les deux langues. C'est-à-dire, il y a une langue prédominante,
oui,
et puis on a l'autre qu'on utilise à la maison, par exemple. Là, c'est un switch total, c'est-à-dire que ces enfants-là avaient le coréen, tout d'un coup plus de coréen et une autre langue. Donc le coréen est totalement remplacé par le français. Il n'y a pas concurrence entre les deux langues, puisqu'il n'y a plus de coréen. Et donc à ce moment-là, jusque donc à un âge assez tardif, on peut remplacer sa langue maternelle par une autre langue.
Et si on leur réapprend le coréen, j'imagine que ça...
Alors, c'est ce que Christophe a essayé de faire, parce qu'évidemment, c'est ce que tout le monde s'est dit. Ça va revenir plus vite. Eh ben non.
Et
donc, en plus, ces adultes ont été extrêmement déçus parce qu'ils se sont dit, oui, on va se remettre au coréen. C'était leur histoire personnelle. Eh bien non. Alors, il a même essayé sous hypnose pour voir s'il n'y avait pas des blocages en se disant, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Alors, peut-être qu'ils veulent, mais en fait, ils ne veulent pas. Et jusque-là, bon, ce n'est pas très concluant. Donc, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça la recherche. Peut-être que demain, on trouvera une autre manière de les étudier et on verra qu'il leur reste quelque chose du coréen.
Ghislaine Dehaene, le premier mot que les bébés prononcent en général en français, c'est papa.
Mm-hmm.
C'est papa dans toutes les langues ?
C'est, disons, quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est vrai que c'est assez facile à faire. Il suffit de fermer les lèvres, d'expulser l'air et de fermer les lèvres, et ça va être quelque chose comme ça, oui, oui. Donc c'est pour ça que les papas s'appellent papa, en fait. C'est parce que c'est le premier mot que les bébés produisent.
Et en anglais ?
Bah, dada, c'est très faux, c'est très proche de...
C'est, pas...
ou c'est dad, ou c'est des choses comme ça. Donc, c'est toujours des mots très proches de ce A, avec quelque chose comme une, ce qu'on appelle une plosive, c'est-à-dire quelque chose de...
Et vous qui étudiez les bébés très, très petits, lorsqu'ils écoutent la maman, par exemple, ils regardent aussi, ils sont en mesure de savoir si c'est un A qui va sortir ou un I qui va sortir de la bouche ?
Alors, c'est une chose, une expérience qu'on est en train de faire actuellement, c'est de savoir à partir de quand le bébé sait que le mouvement articulatoire qu'il voit quand il regarde sa maman correspond au son qu'il entend. Et en fait, on s'est aperçu que très précocement, donc il sait dès 2 mois que si on ouvre la bouche très grand, ça va être un A, et si on étire les lèvres, ça va être plutôt un I, et il est surpris.
Donc
si
il anticipe.
Il anticipe, et je pense aussi qu'il est dans une situation d'imitation, c'est-à-dire il voit sa maman ouvrir grand la bouche, lui aussi essaye d'ouvrir la bouche, produit un son, entend le son de sa maman, et déjà il est en train de mettre toutes ces choses-là ensemble et d'utiliser en fait les régions frontales. Et ça, c'est ce qu'on a découvert avec l'imagerie, c'est que cette région frontale, cette région de Broca dont on entend parfois beaucoup parler, qui est une région de la production de la parole, est déjà active chez des petits bébés qui ne font pas encore grand-chose, puisqu'à 2 mois, ils font Areuil encore. Mais ils sont déjà dans cet essai de contrôle de leurs articulateurs en faisant de l'imitation de ce qu'ils voient leur mère faire et en entendant aussi leur son et le son de la maman. Et tout ça est mis ensemble dans cette région-là.
Les premiers mots viennent en général autour de 1 an. S'ils ne parlent pas avant les bébés, c'est à cause de la grosseur de la langue, de la morphologie.
Voilà, donc il y a plusieurs choses. Bon, il y a le contrôle moteur, on l'a vu, qui est très, très mauvais, hein, puisqu'un bébé a des gestes volontaires aussi, que ça commence à 3-4 mois, puis plus tardivement, la pince devient de plus en plus précise. Donc vous imaginez que ce que vous voyez au niveau des bras, et des jambes, et la même chose au niveau du contrôle de tous ces articulateurs.
70 muscles pour parler.
Eh oui, 70 muscles, ça fait beaucoup.
Oui.
Donc il a du mal à contrôler tout ça, il a du mal à faire le son qu'il veut faire, mais il commence déjà à babiller. Toute cette période de production est en fait une espèce de mise en forme de tous ces sons et de jeux. D'ailleurs, toutes les mamans constatent que leur bébé joue à faire des sons, et c'est tout à fait de ça dont il s'agit, c'est-à-dire il va émettre des sons, ressentir quels sont les muscles qui travaillent, essayer d'améliorer toujours cette production.
Et la première phrase, elle vient quand, en général ?
Ça dépend des enfants. Alors, il y a deux types d'enfants. Il y a des enfants qui vont rester très longtemps au stade du mot, c'est-à-dire dire coquillage, verre, crayon, et puis ils ne vont pas... ou mettre 2 mots ensemble. Et puis, il y a d'autres enfants, beaucoup moins, mais ils sont assez marrants. Ils vont faire la mélodie des phrases. Donc, on a l'impression qu'ils ont dit quelque chose, qu'ils ont dit une vraie phrase, et puis on écoute, il n'y avait rien. Il y avait juste le son qui ressemblait tout à fait à une phrase française. Et ceux-là, tout d'un coup, ne vont pas passer par le stade mot, mais vont donner... tout d'un coup, la phrase complète. Donc, c'est dans la deuxième année de vie, tout ça.
Et on écoute Amy McDonald. Mr. Rock'n'Roll. Multicultural sees all that one could see. He's living. Ghislaine Dehaene, je rappelle que vous êtes co-auteur de La plus belle histoire du langage, livre paru aux éditions du Seuil. Alors les mots, justement, Ghislaine Dehaene, il les repère comment, les bébés? Est-ce qu'on est en mesure de dire, quand on prononce une phrase, c'est une suite de mots, ils n'ont pas les mots sous les yeux?
Oui, tout à fait, parce que contrairement à l'écrit où vous avez un blanc qui sépare chaque mot, lorsqu'on parle, il n'y a pas de pause entre les mots. Donc c'est une des difficultés de l'acquisition de la parole, c'est de savoir retrouver les mots dans cet espace de flux continu qu'est la parole.
Oui.
Alors, il y a plusieurs choses qui les aident. La première chose, c'est quand on parle, on a cette mélodie qui va déjà segmenter la parole en petits bouts de paroles à traiter. Par exemple, si je vous dis Isabelle, vous le savez, est très belle. Je l'ai dit de façon très continue, mais normalement, je dis Isabelle, vous le savez, est très belle. Donc déjà, j'ai trois segments. Et puis, à partir de là, ils vont pouvoir repérer qu'en début de ces segments, on va toujours retrouver, par exemple, les articles, les pronoms personnels. Donc ça, on les élimine. Et puis ensuite, ce qu'il repère, c'est qu'il y a des choses qui reviennent en permanence. Par exemple, maman, ma, il va toujours être suivi de man, enfin très fréquemment. Donc dans ce cas-là, maman est un mot possible. Et donc ils vont l'utiliser. Puis des fois, ils l'entendent en isolation. Et donc ça va renforcer ainsi leur capacité de détecter ces mots. Alors ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, les bébés vont repérer les formes des mots bien avant de savoir leur sens. C'est-à-dire qu'on peut leur montrer, il y a une expérience de Peter Yushik qui a fait lire des histoires à des bébés de 9 mois, qui n'ont rien évidemment compris à l'histoire, ils sont encore très très jeunes, les a fait venir en laboratoire la semaine d'après et leur a présenté une liste des mots venant de cette histoire ou une liste de mots venant d'une autre histoire, et les bébés préfèrent écouter la liste de mots de l'histoire. Donc ils avaient repéré ces mots, dans cette histoire, alors qu'ils n'en connaissaient pas le sens et... ne comprenez pas l'histoire.
Alors, les psys disent que les bébés, même tout petits, comprennent tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la spécialiste de la parole?
Il n'y a pas que le langage pour s'exprimer. Et donc, il y a aussi toute la partie non-verbale.
Mais quand on leur raconte des histoires aux bébés, ou les mamans qui parlent à leur ventre alors qu'elles n'ont... Elles n'ont toujours pas donné naissance.
Il faut d'abord se sentir bien avec son bébé. Donc, si les mamans se sentent bien en leur parlant au bébé dans leur ventre, c'est très bien. Je veux dire, il n'y a pas de normes à donner. Je pense qu'il est important, c'est qu'effectivement, ils soient baignés dans cette parole parce que c'est quand même dans l'interaction avec l'autre qu'on apprend à parler. Mais quand on regarde à travers l'histoire et à travers les cultures, on voit que le parler à l'enfant, comme on le fait actuellement, n'est pas la chose la plus commune. Je veux dire, il y a différentes manières de faire et on s'aperçoit que tous les enfants apprennent à parler.
Et vous dites que ce n'est pas indispensable, donc.
Il ne faut pas les isoler.
Non, mais bien
même.
Sûr que non. Mais faire de là trop de paroles n'est pas forcément indispensable.
Il faut faire comme on le sent, puisque même des bébés entendant deux parents sourds apprennent à parler. Donc là, la maman n'a pas parlé à l'enfant, mais elle a été avec lui, mais elle lui a fait un langage des signes. Et pourtant, il a appris à parler, même s'il n'y avait pas de langage oral, en tout cas, tout le temps avec la maman. Bien sûr, il fallait le langage oral des autres autour, sinon il ne peut pas apprendre un langage
oral. Et les fameux popo, dodo, tutut ?
à mon avis, ça n'ajoute rien. On n'a pas besoin de simplifier. Le bébé, même s'il n'est pas capable de produire, même si c'est pas dire tétine, il comprend très bien tétine. Donc, c'est pas la peine de lui dire tutute, sauf si on a envie d'appeler ça tutute. Je veux dire, le langage est un arbitraire. Donc, si on a d'autres arbitraires que la parole habituelle, pourquoi pas. Néanmoins, il faut savoir que le bébé apprend le vocabulaire de ce qu'il entend. Donc, si on lui présente que 20 mots, il va apprendre que 20 mots. Si on lui en présente 250, il va en apprendre 250. Je veux dire, c'est... Il faut savoir ça aussi.
Et un bébé est capable, à 2 ans, de comprendre combien de mots? On sait ça?
Ça dépend des enfants. Ça commence déjà, on voit des bébés à 300, 500 mots qui sont déjà là. Il faut savoir qu'on arrive à 6 ans à 10 000 mots. Donc, il y a quand même une mécanique très rapide.
10 000 mots à 6 ans?
Oui, quand on dit dans les banlieues, il n'y a que 500 mots, c'est totalement faux. Je veux dire, 500 mots, c'est... On arrive très vite à 10 000 mots. Pensez
mais
à tous
on
les...
n'utilise pas 10 000 mots.
Mais si, pensez tous les noms propres de personnes que vous connaissez, toutes les personnes.
Mais moi,
je ne
connais pas
tout.
Beaucoup.
Non, mais je veux dire, très vite, on ne se rend pas compte. On connaît énormément de mots. Énormément de mots. Plus ceux qu'on n'utilise pas.
Ce que je retiens de cette émission, en tout cas, c'est que le cerveau est très plastique chez ces bébés.
Oui, le cerveau est plastique chez tout le monde, même à 97 ans. Oui. Le cerveau
Mais
est
ça,
là...
c'est une découverte assez récente, finalement, que le cerveau
est
plastique.
Oui, qu'on apprend toujours. Oui. Qu'on apprend toujours et que cet apprentissage modifie le cerveau.
C'est-à-dire que le cerveau se régénère jusqu'à un âge très avancé.
Se régénère. N'oublions pas quand même qu'on a notre stock de neurones, ou quasiment, à la naissance. Donc, si on en perd, c'est pas toujours très bon.
Ah, je croyais qu'on pouvait en acquérir de nouveaux.
Dans certaines régions et
bon,
de
d'accord.
façon très spécifique.
Ah, zut.
Non. Mais par contre, les neurones qui sont là peuvent apprendre et peuvent se modifier et se mettre dans d'autres circuits pour apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est... On n'a pas besoin de nouveaux neurones, il suffit de refaire des connexions. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, des enfants qui ont eu malheureusement des lésions cérébrales, parce que la naissance a été difficile, un accident de voiture, chez l'adulte donnerait des catastrophes, n'ont en fait pas autant de conséquences qu'on s'en attendrait si la lésion avait eu lieu chez l'adulte. Donc il y a une plasticité de ce cerveau.
Ça veut dire que le cerveau compense.
C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le cerveau va apprendre avec les briques qu'il a.
Oui.
Donc il y en a quelques-unes malheureusement qui ont été endommagées. Donc il va apprendre avec le reste et il va apprendre. Il faut se dire que vraiment c'est une gigantesque machine à apprendre et que tout ce qui est dans l'environnement est un sujet d'apprentissage pour le cerveau du bébé. Et donc, avec ça, il va essayer de comprendre le monde et d'apprendre le monde.
Ghislaine Dehaene, quelles sont les grandes questions qu'on se pose en ce moment dans votre laboratoire? Qu'est-ce que vous recherchez?
Alors, beaucoup de choses. Savoir, par exemple, l'organisation de ce cerveau. Pourquoi est-ce qu'on a, comme on le disait au départ, ces capacités? Qu'est-ce qui fait que nous apprenons à parler? Est-ce qu'il y a une organisation déjà? Et ça, on peut le voir avec l'IRM, par exemple.
Et là, vous avez des éléments de réponse?
Par exemple, une des choses très frappantes qu'on est en train de voir en ce moment, c'est l'asymétrie du cerveau humain. Chez le bébé, vous savez, donc, on a dit tout à l'heure que l'hémisphère gauche était l'hémisphère prédominant pour le langage. Non seulement sur le plan fonctionnel, on voit cette asymétrie très précocement, mais sur le plan anatomique, on voit une asymétrie majeure dans toutes les régions qui vont être les régions du langage. Toutes ces régions sont très asymétriques, alors que chez le chimpanzé, elles ne le sentent pas du tout, le macaque encore moins. Donc vraiment une asymétrie majeure, comme s'il y avait une très grosse différence entre le cerveau humain et le cerveau des autres animaux pour cet aspect-là. Une deuxième chose qui nous intéresse aussi, c'est la conscience. À partir de quel moment on est conscient? Qu'est-ce que le bébé sait sur l'autre? De quoi il est conscient vraiment de tout ce monde qu'il apprend?
Et là encore, des éléments de réponse?
Pas encore. On est en train de dessiner des nouvelles études pour essayer de comprendre. On voit très bien, par exemple, en imagerie, des différences entre le bébé endormi et le bébé éveillé. Donc déjà, c'est pas encore la conscience entre conscience d'être soi, mais on voit, par exemple, que les régions frontales qu'on pensait totalement immatures et peu actives chez le bébé sont très activées et très présentes, en fait, quand le bébé est éveillé, alors qu'elles dorment totalement quand le bébé dort, alors que d'autres régions sont tout à fait fonctionnelles. Par exemple, les régions auditives répondent même quand le bébé dort.
Donc, vous faites des expériences dans ce sens.
Voilà. Donc, on voit... On tire un peu parti de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit des bébés qui s'endorment pendant nos études. Et donc, comme ça, on peut comparer ce qui se passe quand le bébé s'est endormi par rapport à ce qu'il faisait lorsqu'il était réveillé.
D'autres questions encore ?
On essaye d'évaluer d'autres choses comme le calcul, l'attention, la mémoire, enfin toutes les grandes fonctions humaines. On essaye de regarder un petit peu ce qui se passe, d'où on part chez le bébé.
Et vous vous êtes intéressée à l'histoire du langage. Depuis quand les hommes sont-ils en mesure de parler?
Alors dans le livre, d'autres personnes sont plus qualifiées pour
Pascal
donner
Pic, Pascal l'incontournable. Pic,
mais aussi Laurent Sagarte, qui raconte très bien comment les langues évoluent et comment on peut, en fonction de de l'évolution des langues, essayer de reconstituer les langues initiales, voire certains ont proposé de reconstituer une langue mère, oui, qui serait la fameuse, celle du premier groupe d'hommes. Donc ça, après, les linguistes discutent beaucoup de la possibilité ou pas de reconstituer cette langue mère, mais je trouve que la perspective est assez intéressante. Vraisemblablement, les données génétiques et aussi les données un peu d'évolution montrent que vers 200 000 ans, on parlait déjà. Alors, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'on parlait avant? Un peu difficile à dire, vu que, évidemment, le cerveau ne laisse pas de fossiles.
Non,
et simplement des marques sur le cerveau qui sont évidemment très, très indirectes aussi.
Et difficile à interpréter.
Alors, à moins d'inventer la machine à remonter dans le temps et de pouvoir emmener une IRM il y a moins de 200 000 ans, ça va être difficile de répondre.
Et comment les mamans parlaient-elles à leur bébé il y a 200 000 ans?
Oui, je pense que déjà, elles étaient... Parce qu'il y a un aspect très important qu'on ne voit pas dans les autres espèces, c'est le contact œil à œil. Vous savez, cette façon de prendre son bébé, de le regarder et d'entrer en contact avec lui, le chimpanzé ne fait pas ça. Ça semble être vraiment aussi un comportement très particulier de l'espèce humaine et qui est sans doute fondamental pour apprendre à parler.
Certain People, c'était FM. Ghislaine Dehaene, j'aimerais bien aller dans votre laboratoire et voir tous ces petits bébés avec lesquels vous travaillez finalement.
Ah oui, non mais venez. Non, ils sont fascinants, ils sont vraiment fascinants.
Toutes ces petites bouilles qui vous regardent, qui vous écoutent, qui vous répondent.
Oui, oui, alors là c'est vrai, c'est une des choses que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête au moment où ils veulent nous dire quelque chose.
Avant même de savoir prononcer des mots.
On a vraiment l'impression, et toutes les mamans vous le diront, que quand on les regarde, ils ne sont pas seulement en train d'imiter ce qu'on est en train de faire, ils veulent faire quelque chose et en fait c'est nous qui les imitons. Et
ils sont déjà dans l'acte de communication.
Certainement.
Alors vous avez participé, Ghislaine Dehaene, avec Pascal Pic, Laurent Sagart et Cécile Lestienne qui vous a interviewé, à La plus belle histoire du langage. Ça paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil. Je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup.
Et bonne fin de soirée à vous. Voilà, cette première partie d'Osmose est terminée. Ghislaine Dehaene, dans un instant, restez avec nous parce que dans un instant, nous parlerons du parfum.
Très important pour les bébés aussi.
Je recevrai Jean Kerléo qui est directeur de l'Osmothèque de Versailles. L'Osmothèque, c'est un monument, c'est un endroit qui conserve les parfums, qui conserve notre patrimoine. Merci beaucoup Ghislaine Dehaene.
Merci.